Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous voici déjà au quatrième dimanche après Pâques. Et je voudrais essayer de vous faire comprendre ce qui unit tous ces textes liturgiques de ce dimanche. L'Église nous rappelle par ces différents textes, que ce soit dans l'oraison, dans l'épître de Saint Jacques, dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 16, également dans la secrète, que sur terre, tous les chrétiens seront exposés à la persécution et à l'hostilité, comme notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a été exposé à cette même persécution, à cette même hostilité. Notre Seigneur Jésus-Christ aurait pu nous sauver autrement que par la croix. Il a voulu nous sauver par la croix et par les souffrances épouvantables qui ont mené à la croix. Alors, si lui qui est innocent a voulu souffrir ainsi à cause de nos péchés, eh bien, il ne faut pas s'étonner que nous qui sommes ses amis, eh bien, nous soyons tenus, obligés en quelque sorte, de suivre un peu le même chemin. Bien sûr, nous ne pouvons pas prétendre souffrir comme notre Seigneur Jésus-Christ a souffert, nous en serions bien incapables. Il nous faut au moins prendre la même ligne. Nous allons souffrir parce que notre Seigneur Jésus-Christ a souffert. Tous ceux qui veulent vivre pieusement vont subir la persécution, dit Saint Paul à Timothée. Malgré ces persécutions, malgré cette hostilité constante du monde, qui prouve que nous sommes dans le bon chemin d'ailleurs, rappelez-vous la prophétie de Siméon, vous serez un signe de contradiction pour la chute et pour la résurrection de beaucoup en Israël. Et bien, malgré cette persécution, malgré cette hostilité, l'Église continue son œuvre. L'œuvre de Dieu se poursuit, dans l'épreuve certes, mais se poursuit. Et malgré toutes les épreuves terribles, et bien l'Église catholique est toujours là. Certes, elle est bien petite, humainement parlant. L'Église se réduit, il faut bien avouer ce qui est, de plus en plus à des dimensions domestiques. Quelques familles à droite, à gauche, quelques gens, quelques personnes, quelques petits groupes à droite et à gauche qui conservent la foi. Mais dans ces familles, dans le cœur de ces petits groupes, même très humbles, même très petits, il y a quelqu'un d'extraordinaire qui vit. Et ce quelqu'un extraordinaire, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même. Et Dieu nous a promis le paraclet. Il nous l'a promis. Il vous est utile que je m'en aille, dit notre Seigneur, car si je ne m'en vais pas, le paraclet ne viendra point à vous. Or, notre Seigneur Jésus-Christ est remonté au ciel, à l'ascension, donc le paraclet va venir à nous. Qu'est-ce que c'est que le paraclet? Le paraclet, c'est la troisième personne de la Sainte Trinité, c'est le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit va nous donner justement la force de poursuivre malgré les persécutions, malgré les hostilités, malgré les épreuves. C'est ce que dit l'admirable secrète d'aujourd'hui. Ô Dieu, qui par l'échange admirable qui s'opère en ce sacrifice, nous donnez d'avoir part à votre unique et souveraine divinité, faites que nous, que connaissant votre vérité, nous nous attachions à le suivre par une conduite qui en soit digne. Donc c'est le Saint-Esprit qui va venir alimenter notre âme, va nous obliger à vivre selon notre foi. Celui qui ne vit pas comme il pense, un jour pensera comme il vit. Celui qui pense comme un catholique, mais agit comme un protestant, un jour, il pensera aussi comme un protestant. Alors, il nous faut nous appuyer sur notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi pouvons-nous nous appuyer sur notre Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, Saint-Jacques va nous donner la raison. Parce qu'en Dieu, il n'y a ni changement, ni l'ombre de vicissitude. Dieu ne vieillit jamais. Son œuvre, son enseignement, sa doctrine ne change jamais. Parce que Dieu est éternel. Il n'y a donc en lui ni changement, ni l'ombre de vicissitude. Alors que dans le monde, tout change et tout est modifié à longueur de journée. Et puisque en Dieu il n'y a ni changement, ni l'ombre de vicissitude, sachons, mes bien chers frères, que dans l'Église catholique également, il n'y a ni changement, ni l'ombre de vicissitude. Parce que la doctrine de Dieu ne change pas. Et la doctrine de Dieu qui est transmise à son Église et qui est conservée scrupuleusement par l'Église catholique à travers les siècles, cette doctrine ne change pas parce que précisément elle est divine. Donc ce n'est pas seulement Dieu qui ne change pas, mais son Église aussi. Et cela doit nous réconforter, mes bien chers frères, malgré les difficultés, malgré les épreuves. Nous savons que les forces du mal ne prévaudront point contre elles. Saint Matthieu nous l'a promis. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église et les forces de l'enfer ne prévaudront point contre elles. Mais attention, notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais promis qu'il y aurait des millions et des millions de catholiques. Il a parlé très souvent à ses disciples d'un petit troupeau, d'une voie étroite, d'une porte étroite qui menait par la voie étroite au ciel, et combien peu étaient ceux qui la prennent. Il y a quelques conseils dans l'épître de Saint-Jacques qu'il nous faut écouter soigneusement pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse œuvrer par nous, pour que l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ puisse vraiment travailler dans nos âmes. Il faut, dit Saint-Jacques, que chacun soit empressé à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Il nous faut laisser le bon Dieu rentrer dans notre âme. Si je parle tout le temps, plus de place pour lui. Si j'agis tout le temps, il n'y a plus de place pour lui. Il faut que mon âme s'ouvre. Il faut que j'apprenne à écouter avant de parler. Il faut que je prenne mon temps avant de parler. Il faut que je prenne mon temps avant d'agir. Et il faut surtout que je ne me mette en aucun cas en colère, parce que la colère est toujours mauvaise conseillère. Voilà ce que nous dit Saint Paul, pardon Saint Jacques. Le dernier texte sur lequel je voudrais insister, c'est l'oraison. L'oraison aussi là, qui est d'une grande richesse, je vous la lis. Ô Dieu, qui donnez à vos fidèles de n'avoir plus qu'un seul vouloir, accordez à vos peuples l'amour de vos commandements, le désir de vos promesses, afin que, parmi les multitudes attraits de ce monde, les multiples attraits de ce monde, nos cœurs demeurent fixés là où sont les vraies joies. Quelle richesse dans ce texte! D'abord, le bon Dieu nous rappelle que si le paraclet travaille en nous, si le paraclet illumine notre intelligence, nos intelligences, alors nous serons unis dans nos cœurs pour n'avoir qu'un seul vouloir. N'oublions pas, mes bien chers frères, que l'Église est une, la véritable Église du Christ est une. Unité de foi, unité de doctrine, unité de gouvernement. C'est la même doctrine, le même gouvernement pour garder intact le dépôt de la foi. Et si nous avons cette unité en notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien nous pourrons à ce moment-là remplir ces conditions dont nous parle notre Seigneur Jésus-Christ dans cette oraison. D'abord, première condition, avoir l'amour des commandements du bon Dieu. L'amour des commandements du bon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ? Pas simplement connaître les 10 commandements de Dieu. Pas simplement les remplir, ces 10 commandements de Dieu. Mais avoir l'amour de ces commandements. C'est extrêmement exigeant comme demande. Peu de gens ont l'amour des commandements du bon Dieu. Beaucoup de catholiques, dans la tradition, avec la grâce du bon Dieu, suivent la loi du bon Dieu, plus ou moins, au moins. Ils remplissent la loi du bon Dieu, ils suivent les commandements de Dieu. Mais malheureusement, beaucoup suivent ces commandements par obligation. Il faut penser, si vous voulez, à quelqu'un qui est dans une pièce où il est obligé de vivre. Dans cette pièce, il est protégé de tous les miasmes du monde. Et il vit comme un catholique dans cette pièce, mais il est toujours fourré et toujours exposé à la fenêtre. Par la fenêtre, derrière le rideau, il regarde le monde. Et il voit les gens du monde qui suivent les 3 concupiscences de la chair, des yeux, de l'orgueil. Et il se dit, Je suis avec notre Seigneur Jésus-Christ toute la journée dans cette pièce. Ici, je suis en état de grâce, je suis obligé d'être en état de grâce. Mais quel dommage que je ne sois pas dans le monde. Si j'étais dans le monde, ça serait bien quand même, parce que je pourrais enfin faire tout ce que je veux. Je pourrais penser comme je veux, je pourrais agir comme je veux. Je pourrais aimer qui je veux et comme je veux. Mais ici, je suis obligé de suivre les commandements de bon Dieu. Beaucoup de nos fidèles sont comme ça, mes bien chers frères. Est-ce que vous et moi, on n'est pas un petit peu comme ça de temps en temps? Est-ce qu'on a donc cet amour des commandements? Pas simplement comprendre qu'il faut les suivre, pas simplement les connaître, avoir l'amour des commandements. L'amour des commandements va nous permettre de donner, d'avoir en nous l'amour de Dieu, bien sûr, mais aussi l'amour du prochain, pour monter, amener le prochain à Dieu. Quand le bon Dieu me demande de ne pas voler, de ne pas mentir, de ne pas tuer, de ne pas me mettre en colère, de ne pas désirer les choses que je n'ai pas le droit de désirer, est-ce que j'aime ces ordres que me donne le bon Dieu ou est-ce que j'obéis contraint et forcé? Voyez, je pense que là on touche à un point extrêmement important parce que je suis convaincu, je vous l'ai déjà souvent dit en sermon, dans les conférences que je donne sur Internet, je pense de plus en plus que c'est ça qui explique les chutes, surtout des hommes d'église des années 60. Il manquait l'amour de Dieu. Le prêtre gardait sa soutane, mais avait perdu l'amour de sa soutane. Le prêtre disait son bréviaire tous les jours, mais avait perdu l'amour de son bréviaire. Le prêtre célébrait sa sainte messe traditionnelle tous les jours, mais avait perdu l'amour de la sainte messe. Et je pense que c'est la même question qui doit se poser pour chacun d'entre nous aujourd'hui, 60 ans plus tard. Est-ce que j'aime agir comme un catholique? Est-ce que les jeunes filles qui m'écoutent sur Internet et qui sont obligées de s'habiller comme jeune fille catholique par amour de Dieu, est-ce qu'elles aiment s'habiller comme ça? Ou est-ce qu'elles le font contraintes et forcées par la divine providence? Est-ce que les hommes qui agissent comme pères de famille, qui remplissent leurs obligations, est-ce qu'ils aiment remplir leurs obligations? Donc la première des conditions pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ et accepter en nous la présence du Paraclet, c'est donc quoi? D'avoir l'amour des commandements du bon Dieu. La deuxième condition pour pouvoir laisser agir le Paraclet dans nos âmes, c'est d'avoir le désir des promesses du bon Dieu. Celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix, qu'il se renonce et qu'il me suive. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. C'est tout l'acte d'espérance. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ votre grâce en ce monde. Et si j'observe vos commandements, le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis, que vous êtes fidèle dans vos promesses. Est-ce que j'ai en moi un constant désir du ciel? La première des promesses du bon Dieu, c'est laquelle? C'est le ciel pour nous. Le bon Dieu nous a promis le ciel si je suis la loi du bon Dieu, et plus si j'aime la loi du bon Dieu, si j'ai l'amour de ses commandements, alors je pourrai remplir sa première promesse et nous amener au ciel. J'ai été créé pour cela, j'ai été créé pour louer, honorer, servir Dieu et par cela sauver mon âme, attention. Donc, est-ce que j'ai en moi ce désir du ciel? Rappelez-vous ce bel exemple qu'on a chez saint Thomas, que je vous ai souvent cité. La sœur de sang, saint Thomas, qui lui demandait quelle est la première condition pour aller au ciel, frère Thomas. Et Thomas répondit à sa petite sœur, la première condition, ma sœur, c'est d'abord d'avoir un grand, grand désir du ciel. Est-ce que j'ai en moi un grand désir du ciel? Ou est-ce que j'ai un grand désir du ciel qui est partagé avec un grand désir de briller dans le monde? Si j'ai un grand désir du monde, je ne peux pas prétendre avoir un grand désir du ciel. Troisième condition, la raison nous dit que nous devons avoir l'amour de ses commandements, les commandements du bon Dieu, le désir de ses promesses, afin que, malgré les multiples attraits de ce monde, Nos cœurs demeurent fixés là où sont les vraies joies. Les multiples attraits de ce monde. Dieu nous prévient, attention, celui qui veut me suivre, il va devoir abandonner l'amour du monde. La première condition pour se mettre sur le chemin qui mène à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est d'arrêter d'aimer les choses de ce monde. Donc si j'aime énormément les choses de ce monde, je ne peux pas prétendre aimer en même temps beaucoup notre Seigneur Jésus-Christ. Donc une des conditions pour pouvoir suivre notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de ne pas succomber aux attraits de ce monde. Et donc posons-nous la question, est-ce que la concupiscence des yeux, est-ce que la concupiscence de la chair, est-ce que l'orgueil, est-ce que ces trois concupiscences ont une entrée chez moi? Est-ce que dans mon cœur, je garde l'attrait pour les choses de ce monde? On ne peut pas prétendre aimer à la fois notre Seigneur Jésus-Christ et à la fois les choses de ce monde, c'est impossible. Et donc si le Saint-Esprit est dans mon âme, si le Paraclet est dans mon âme, la première conséquence de la présence du Paraclet dans mon âme sera le fait que je vais arrêter d'avoir l'attrait pour les choses de ce monde. Et si je garde dans ma vie de tous les jours toutes ces choses qui m'amènent à l'attrait du monde, eh bien ne soyons pas étonnés si évidemment, ben, petit à petit, je me laisse grignoter par les choses du monde. Un catholique, c'est triste à dire, mais c'est malheureusement comme ça aujourd'hui. Un catholique, c'est quelqu'un qui dit non toute la journée. Alors posez-nous cette question, est-ce que je suis heureux de dire non toute la journée aux choses de ce monde? Ou est-ce qu'au contraire, je dis non aux choses de ce monde par obligation? Mon Dieu, parce que je suis chrétien, eh bien je suis obligé de dire non à tout. Et je regarde bien parce que j'aimerais bien dire oui aux choses de ce monde. Et parce que je vous suis, que vous avez été crucifié pour moi, je me sens obligé de dire non. Non aux choses de ce monde. Et c'est là où arrive la quatrième condition que notre Seigneur Jésus-Christ, que l'Église nous explique par cette oraison. Accordez à vos peuples d'abord l'amour de vos commandements, le désir de vos promesses, afin que, parmi les multiples attraits de ce monde, nos cœurs demeurent fixés là où sont les vraies joies. Si l'Église nous parle des vraies joies, c'est qu'il y a des fausses joies. C'est qu'il y a des joies qui apparaissent véritables alors qu'elles ne le sont pas, qu'elles ne le sont plus. Le démon est passé maître dans la tromperie, dans la duperie. Il est capable de peindre avec une couleur dorée toutes les choses laides de ce monde. Donc demandons à ce que nos cœurs demeurent fixés là où sont les vraies joies. Et où sont les vraies joies? Les vraies joies sont en notre Seigneur Jésus-Christ. La seule personne qui ne vous décevra jamais, il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une seule personne au monde qui ne vous décevra jamais, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Les gens de ce monde nous décevront toujours, plus ou moins, même les meilleurs, même ceux qu'on croyait être d'excellents amis. C'est pour ça que le bon Dieu parfois permet que nous ayons des grosses épreuves pour nous permettre de voir où sont les véritables amis sur lesquels on peut vraiment compter. On voit qu'on n'en a pas beaucoup. Donc demandons à ce que mon cœur, à ce que nos cœurs soient toujours fixés là où sont les vraies joies. Les vraies joies, c'est le ciel. Qu'il est bon pour nous d'être ensemble. Est-ce qu'il est bon pour les catholiques qui vivent en état de grâce de former cette grande famille au service de notre Seigneur Jésus-Christ? Voilà ce qu'il nous faut mettre dans le cœur de nos enfants, mes bien chers frères, c'est pas facile. Si vous, parents qui m'écoutez, vous avez réussi à mettre dans le cœur de vos enfants, de vos petits surtout, l'amour de la messe, l'amour de la prière, la haine du monde, il faut prononcer ce mot. La haine du monde, alors, oui, vous aurez rempli votre fonction de père et de mère de famille. Alors je vous relis une dernière fois cette oraison. Ô Dieu, qui donnez à vos fidèles de n'avoir plus qu'un seul vouloir, accordez à vos peuples l'amour de vos commandements, le désir de vos promesses, afin que parmi les multiples attraits de ce monde, nos cœurs demeurent fixés là où sont les vraies joies. Et passons par une autre personne qui vous décevra jamais. La très sainte Vierge Marie, elle non plus ne peut pas nous décevoir. parce qu'elle est mère de Dieu. Demandons-lui qu'elle nous aide à avoir notre cœur fixé en son cœur immaculé, pour qu'ensemble nous puissions nous fixer dans le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ à cause de ce lien très étroit qui existe entre le cœur immaculé de Notre-Dame et le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si nous savons fixer toutes nos attentions, fixer notre volonté, fixer notre intelligence, là où sont les vraies joies, c'est dans le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne serons jamais, jamais déçus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.